toutes et à tous. Ça doit faire bientôt une trentaine d'années que j'assure des prédications. Et je commencerai par un mot de témoignage, c'est que quasiment à chaque fois, le président, qu'on se soit concerté ou pas, eh bien préside dans le sens du message qui va être donné. Et à plusieurs reprises, ce matin, j'ai vu moi aussi des clins d'œil dans ce que disait Guy. Le thème de la prédication avait été annoncé la semaine dernière, je ne sais pas si Guy s'en est inspiré, c'est le livre d'Habacuc. Alors pourquoi ce livre? Parce que ce n'est pas le premier auquel on pense quand on cherche une prédication. C'est un petit livre, on dit un petit prophète, parce qu'il n'y a que trois chapitres, ce sont des livres non pas sans importance, mais beaucoup plus courts. Et c'est un livre qui nous parle d'un contexte qui, sans être semblable au nôtre, présente quand même certaines similitudes. Et le prophète Habacuc lui-même, dont on sait peu de choses, peut être pris comme exemple dans les temps troublés que nous traversons. Voilà un homme qui vit une situation qui n'est pas facile. Je détaillerai un peu dans la prédication. Le contexte de Juda n'est vraiment pas réjouissant. Et cet homme, il crie à Dieu. Et dans un premier temps, il n'a pas de réponse. Alors il réinterroge Dieu. Et en résumé, la réponse de Dieu, c'est « Bah écoute, ça va être pire qu'avant. » Alors, je me dis, comment on reçoit une parole comme ça? C'est ça qui m'a interpellé aussi. Et puis, je reciterai cette introduction de Guy qui disait « Mes pensées ne sont pas vos pensées, le livre d'Habacuc va vraiment nous montrer cela. » Ce livre, il est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama? J'en citerai que deux qui sont en rapport direct avec la méditation de ce matin. La première fois, c'est dans Romains 1, verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Habacuc 2, verset 4. Vous voyez, on ne connaît pas le livre d'Habacuc, mais l'argumentation de Paul, le juste vivra par la foi, repose sur ce texte. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 37 et 38, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas de plaisir en lui. S'il fallait retenir un verset du livre d'Habacuc, je crois que c'est « Le juste vivra par la foi ». Et ce que je vous propose ce matin, c'est de commencer à regarder comment Habacuc a mis ce verset en pratique. Comme je vous l'ai dit, d'Habacuc, on ne connaît pas grand-chose, juste son nom. Par contre, le livre nous donne quelques indications sur le contexte dans lequel il a été écrit. C'est un contexte difficile, qu'on situe probablement entre 612 et 605 avant Jésus-Christ. Il aurait donc connu la fin du règne du roi Josias, puis le règne des fils Akaz, Joachim. Alors bien sûr, pour moi c'est facile, je suis allé rechercher les dates, j'ai regardé les noms, c'est plus difficile de retenir ça. Mais il faut simplement savoir qu'on est juste avant la déportation de Juda et la destruction de Jérusalem. Donc vous voyez, c'est pas rien qui va se passer dans l'histoire de Juda, c'est à ce moment-là qu'Habacuc interroge Dieu. Et si vous voulez, nous ferons la lecture du chapitre 1 en plusieurs temps. Pour ceux qui veulent suivre Habacuc, c'est pas forcément facile à retrouver dans sa Bible, donc je vous ai remis la liste des petits prophètes pour que vous voyez à peu près où ça se situe. Et on pourra commencer la lecture des 4 premiers versets. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Et c'est Habacuc qui parle. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » J'arrêterai là pour cette première lecture. On comprend dans les propos d'Habacuc que la situation intérieure en Juda est grave. Et le prophète Jérémie avait prophétisé déjà sur le roi Jéhoiakim, qui régnait à l'époque et qui était, comme le dit la Bible, un mauvais roi. Regardez ce qu'en dit le prophète Jérémie. « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, les lambris de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ?» demande Dieu. Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre, et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? C'est de Josias qu'on parle dans ses paroles. Mais toi, Jéhoiakim, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, sa majesté !» Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Le roi de l'époque était d'abord préoccupé de s'accumuler des richesses pour lui-même, plutôt que de prendre soin de son peuple. Ce peuple, il l'a oppressé, il a répandu son sang, et si le jugement de Dieu n'a pas encore été exercé sur Jéhoiakim, eh bien pour l'instant, c'est la violence et la corruption qui règnent en Juda. Alors Habacuc se plaint. Pourquoi est-ce qu'il se plaint? Parce qu'il est attristé par ce qu'il voit. La violence, la corruption, l'injustice. Après l'actualité que Guy nous citait en Érythrée, est-ce qu'il est besoin de redonner d'autres détails? La violence, on l'a tous les jours, dans toutes les circonstances. Alors comment réagissons-nous? Est-ce que nous faisons comme si de rien n'était? On ferme les yeux pour se protéger? C'est vrai qu'il y a des moments où on n'arrive plus à recevoir tout ça. Je me souviens d'une réaction de mon beau-père qui avait pris l'habitude de lire, je suis abonné à une revue, d'information hebdomadaire, et toutes les semaines, je lui donnais. Et un jour, il m'a dit, écoute, arrête, j'en peux plus. C'est trop de mauvaises choses qui nous arrivent. Merci, mais j'en peux plus. Et on peut avoir ce sentiment de se dire, non, trop, c'est trop, moi, je peux pas assumer tout ça, je peux pas entendre tout ça. Est-ce qu'on se dit, c'est une fatalité, le monde est comme ça? J'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, tout seul? Est-ce qu'on est devenu insensible, endurci? Chacun réagit à sa façon, j'allais dire comme il peut. Habacuc, lui, il n'est pas résigné. Il s'y fait pas. Lorsque le mal règne, lorsque la loi de Dieu est bafouée, il se dit que seul Dieu a le pouvoir de rétablir les choses, alors il appelle au secours. Il appelle Dieu au secours. Mais Dieu ne répond pas. Alors il y a un deuxième cri. Est-ce que tu ne m'entends pas? Jusqu'à quand est-ce que cela va durer? Pourquoi n'interviens-tu pas? Alors voyons la réponse de Dieu. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Le mot est fort. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, le mot sonne bizarrement. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Les images sont parlantes. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Vous savez qu'à l'époque, le seul moyen d'entrer au-dessus d'une muraille, eh bien, c'était d'amasser de la terre, de faire un talus, et puis on finissait par entrer dans la forteresse. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Notez bien cela aussi, Dieu l'annonce dès le départ. Sa force à lui, voilà son Dieu. Moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse de Dieu est déroutante. Ce n'est pas celle qu'Habacuc attendait. Habacuc espérait probablement le retour à la justice, à la paix, et Dieu annonce l'invasion de Juda par les Chaldéens, qu'il qualifie lui-même de peuple violent et cruel. En résumé, c'est pas bien aujourd'hui, mais ça sera pire demain. Et deux rois nous donnent l'explication, pourquoi est-ce que ce sera pire demain ? Dieu veut punir les péchés de Manassé, le plus méchant roi de Juda. Il y a 50 ou 60 ans de décalage dans le temps. Manassé, c'était pour Habacuc de l'histoire ancienne. Et pourtant, Dieu va punir le péché d'Israël, de Juda. Alors, quelques rappels historiques pour mieux comprendre la situation. Les Chaldéens, c'est aussi ce qu'on appelle les Babyloniens, ils viennent de se libérer de l'empire assyrien qui est déclinant, et c'est la puissance dominante. C'est elle qui va gouverner la région dans les temps qui viennent. Et Juda, se trouve finalement entre deux puissances régionales dominantes. Il y a d'un côté, il y a l'Égypte, puis de l'autre côté, il y a la Babylonie. Et évidemment, quand une puissance émerge comme ça, l'autre puissance va essayer de la contrecarrer. Donc le pharaon va envoyer des troupes. Et c'est encore le roi Josias à l'époque, il a la mauvaise idée de dire « non, tu passeras pas ». Et puis il le paye de sa vie parce que dans la bataille qu'il livre aux forces égyptiennes, il est tué et c'est son fils Akaz qui va prendre le pouvoir. Alors, Juda n'a pas su arrêter l'Égypte, l'Égypte va combattre Babylone, mais la première bataille donne rien, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Mais au retour, les Égyptiens se souviennent comment ils ont été reçus à Jérusalem, donc ils déposent Akaz et ils mettent à la place son frère Yehoiakim, qu'ils ont rebaptisé d'ailleurs. Et puis on s'y perd un peu, Yehoiakim et tout, bon. C'est la même personne. Et voilà comment un mauvais roi arrive au pouvoir, alors que son père avait réussi à se libérer du joug assyrien, et bien là, Yehoiakim remet Juda sous le joug de l'Égypte cette fois-ci. Et évidemment, quand on a été mis en place par un pouvoir, eh bien, on sert ce pouvoir et Yehoiakim ne va pas servir Juda, il va servir l'Égypte. Et l'Égypte va de nouveau tenter une nouvelle campagne militaire contre Babylone, et c'est la bataille de Carchémish, et là, c'est la grande défaite. L'Égypte est non pas anéantie, mais elle est hors de pouvoir de contenir le pouvoir babylonien, donc ils rentrent chez eux. Et évidemment, Babylone va envahir toute la région et se souvenir que Juda a pris parti pour l'Égypte. Donc ils vont imposer un impôt, etc. Et Yehoiakim va tenter de se révolter. Et alors là, c'est la fin de tout. Nabucodonosor va revenir et regardez ce qui est annoncé dans 2 Rois 24 au verset 1 à 4. Sous le règne de Yehoiakim, Nabucodonosor, roi de Babylone, l'attaqua. Et Yehoiakim fut assujetti à Nabucodonosor pendant 3 ans. Puis il se révolta contre lui. Alors l'Éternel déchaîna contre lui les bandes des Chaldéens, des bandes de Syriens, de Moabites et d'Ammonites. Il les dressa contre le royaume de Dieu pour le faire disparaître, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Ces malheurs arrivèrent uniquement sur l'ordre de l'Éternel, parce qu'il voulait chasser Juda loin de lui, à cause de tous les péchés commis par Manassé. Et parce qu'il avait tué beaucoup d'innocents dont le sang avait rempli Jérusalem, car l'Éternel ne voulait plus pardonner. Quelle parole ! Heureusement qu'on a le Nouveau Testament et qu'on sait que Dieu pardonne. Et puis on sait aussi dans la Bible, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, que Dieu se repent toujours d'avoir refusé de pardonner, et qu'il revient bien souvent sur ces jugements. Mais j'en tire déjà quelques enseignements. Cette violence qu'Habacuc voit, permise par Dieu, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas sans raison. C'est l'expression d'un jugement juste. Et cela me rappelle que le péché, même pardonné, a des conséquences. Même pour nous, aujourd'hui, on est responsable de nos péchés et on peut être amené à payer les conséquences de ce péché, même si on est pardonné aux yeux de Dieu, on n'est pas délivré complètement des conséquences de notre péché dans la vie de tous les jours. Et puis, ce qui doit vous chiffonner, vous comme moi, c'est ce délai entre la punition et le péché, soit une soixantaine d'années. Le jugement de Dieu est différé dans le temps et ça peut nous paraître injuste. Ce n'est pas Manassé qui est puni, c'est ses descendants. Nous, humains, nous nous attendons à une punition rapide. Je prends juste un exemple. Un jeune enfant, il fait une bêtise, si vous le punissez 3 jours après, déjà, quelquefois, si vous le punissez 1 heure après, il ne comprend plus. Alors, pourquoi ce délai? Pourquoi ce changement de personne? Pourquoi ce n'est pas le coupable qui est puni, mais sa descendance? Puis ce délai, ça donne l'impression au coupable qu'il va passer à côté de la punition. Bien, l'histoire de Judas nous montre qu'il n'en a rien été, et que si Dieu pardonne à celui qui demande son pardon, eh bien, il ne tient pas pour juste le coupable qui persiste dans son péché. Reprenons notre lecture, et voyons comment Habacuc reçoit cette parole « Ce sera pire demain ». N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu établis ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Je ne sais pas comment vous lisez ce premier verset. Moi, j'ai l'impression qu'Habacuc, il doit être un peu KO debout et que ça se bouscule dans sa tête. D'abord, il ne comprend pas. Est-ce que ce n'est pas toi, mon Dieu, mon Saint? C'est toi qui tiens ces paroles-là? Nous ne mourrons pas, après ce que Dieu vient de lui annoncer. Tu as établi ce peuple, on a l'impression qu'il résume dans sa tête. On voit quand même probablement tout le trouble. Puis, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Alors, il, là c'est les Chaldéens, il y a une image. Hein. Il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies, aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente, tout lui réussit. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? On voit qu'il y a encore beaucoup de questions hein, dans la tête d'Habacuc. Mais on remarquera aussi que la première chose que fait Habacuc, c'est de proclamer la sainteté de Dieu. Quelles que soient ses questions, ses incompréhensions, ses impatiences, il n'oublie pas qui est Dieu et qui il est. Il trouve le ton juste pour faire part à Dieu de ses questions et de son incompréhension. Nous ne mourrons pas. Plus je lis ces paroles, et plus ça m'étonne qu'elles soient là. On vient de lui annoncer une invasion de barbares. Et il dit « Nous ne mourrons pas ». Alors je me dis, est-ce que c'est une affirmation de sa foi en Dieu en disant « Je sais que tu ne nous abandonneras pas, on ne mourra pas ». Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est une prière dont il anticipe l'exaucement? Ça vous est jamais arrivé de dire « Non, ça n'arrivera pas ». Dieu veille. Et on s'accroche à ça. On veut y croire. Et pourtant, la chose est arrivée, Jérusalem a été détruite et le peuple exilé. Alors je vous dis, il n'est pas interdit, et vous comprenez dans quel sens je vais dire ça, il n'est pas interdit de croire en la puissance de la prière, ni de croire qu'on va être exaucé. Bien au contraire. Mais sachons également que ce qu'on attend, nos prières, tout cela, ça n'oblige pas Dieu. qui est souverain. Et si vous me permettez, j'ouvrirai une parenthèse pour livrer un témoignage personnel. Justement, en réponse à des situations qui ne sont pas du tout celles qu'on a voulues. Ça ne me concerne pas personnellement, ça concerne le père de ma mère, qui était sacristain dans l'Église catholique, donc on peut penser qu'il avait quand même une certaine foi, il était au service dans l'Église. Il avait déjà deux jeunes filles, et il attendait un garçon, et voilà que ce garçon arrive. Et dès les premiers jours, il tombe malade. Et mon grand-père a passé 3 semaines à genoux dans la prière pour que son bébé guérisse. Et son bébé est mort à l'âge de 3 semaines. Ce jour-là, mon grand-père s'est levé, il a regardé ma grand-mère et il lui a dit « Il n'y a personne là-haut ». Il a tout abandonné et il est devenu un communiste bouffant du curé, comme on disait à l'époque. Ma grand-mère, qui a vécu la même épreuve, a conservé une foi discrète, au point que je n'ai compris qu'elle était attachée à Dieu quand elle avait plus de 90 ans et qu'elle s'en est ouverte à moi. On ne parlait jamais de cela chez mes grands-parents. Évidemment, avec mon grand-père, c'était plus possible. Qui a été le plus fort dans cette épreuve? Mon grand-père ou ma grand-mère? C'est pas du tout pour juger mon grand-père que je dis ça, parce que comment on réagit quand on vit une chose pareille? Je voudrais quand même vous dire que, quelques jours avant sa mort, qui était prévisible, il était gravement malade et on voyait arriver la fin, ma grand-mère lui a demandé ses dernières volontés pour son service funèbre. Et lui a dit, écoute, après plus de 60 ans de vie commune, on ne va pas laisser ça nous séparer. Et donc on a quand même toujours l'espoir dans la famille que, au dernier moment, il a reconfié son âme à Dieu. Si je donne ce témoignage, c'est parce que peut-être, un jour, on aura à faire face à une situation où on voudra quelque chose tellement fort qu'on ne pourra pas accepter que Dieu ne nous l'accorde pas. Habacuc, lui, même s'il n'a pas compris, et je vous proposerai d'aller plus loin dans le livre dans 2 autres prédications, mais eh bien, il ne se révolte pas. Il reçoit ses paroles, il ne comprend pas, il interroge, mais il ne remet pas tout en cause. Et il se dit, finalement, la réponse de Dieu me dit que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas dépassé par les événements. C'est lui qui règne, qui décide quand et comment il agit. Et plutôt que de rester avec cette incompréhension, eh bien, il interroge Dieu et lui dit, écoute, je ne te reconnais pas. Je te connais, mais là, je ne te reconnais pas. Toi, le saint, tu tolères le mal. Toi, le juste, tu laisses faire le méchant. Tu laisses dominer le juste. Toi qui es amour, tu laisses les hommes traiter d'autres hommes comme des animaux, comme du bétail. Toi, le tout-puissant, tu laisses des hommes croire que la puissance est en eux, dans leurs forces, dans leurs armes, dans leurs chevaux. Ça ne te ressemble pas. Je te comprends pas, je te comprends plus. Est-ce que vous ne partagez pas un peu ces interrogations d'Habacuc? Mais là où Habacuc est exemplaire, c'est qu'il ose parler à Dieu, avec cette justesse de ton, en restant à sa place d'homme. Il ne conteste pas Dieu, il ne le met pas en accusation, et voyons l'attitude qu'il va prendre. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira et ce que je répondrai à ma protestation. La formulation est un peu bizarre. Je répondrai à ma protestation. En fait, Habacuc va apporter au peuple la prophétie qu'il va recevoir de Dieu. Habacuc s'interroge, mais il ne perd pas espoir et il se dit « Je vais attendre, je vais voir ». Et ça m'interroge parce que je me dis, lorsque je prie, est-ce que je sais prendre ce temps d'écoute Ou est-ce que je suis tenté de dire, bon, Dieu n'a pas bien entendu, je vais répéter ma prière. Après tout, on enseigne dans l'Église qu'il faut être persévérant dans la prière. Je vais continuer. Je crois qu'il est un temps où on doit se dire que si Dieu n'a pas répondu, c'est peut-être ça sa réponse. Et que si nous nous épuisons à répéter toujours les mêmes choses, à attendre toujours l'exaucement, eh bien nous courons le risque d'abord de nous épuiser et puis d'être fort déçus, parce que c'est pas parce que je veux la chose avec ardeur et avec persévérance qu'elle se fera. Effectivement, le dialogue continue. L'Éternel répondit « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. » Vous voyez la solennité du ton. « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Et même s'il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient. » Sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux, et il ne réussira pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche, et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Dieu ne répond pas directement aux questions d'Habacuc, mais il lui donne des assurances. Si même il faut attendre, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Rappelez-vous le premier verset que nous avons lu, la première question d'Habacuc. Jusque à quand ? Dieu ne lui répond pas par une date, par un moment précis. Il lui dit, je vais intervenir sans tarder. Sans tarder, 60 ans. Sans tarder. Mais pour moi, c'est là qu'on comprend que notre temps est compté, mais pas celui de Dieu. Il nous est difficile d'être patient. Mais souvenons-nous que Dieu déteste le mal encore plus que nous. Le mal sera sanctionné. Cette soif de justice qu'exprime Habacuc, Dieu va la satisfaire. Même si pour l'instant, on ne voit pas trop les choses se dérouler comme cela. La richesse décevra le guerrier orgueilleux. Il ne réussira pas. Contrairement aux apparences, et ça va durer quand même un certain temps, hein, cette domination de Babylone. Eh bien, le méchant ne subsistera pas. Il va lui-même, en exerçant le jugement de Dieu avec cruauté, se condamner lui-même. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Dieu dit à Habacuc qu'en fait, sa foi est mise à l'épreuve. Et déclaré juste celui qui conserve sa confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. En conclusion, je dirais, ça peut nous surprendre, mais il arrive que Dieu utilise le méchant pour exercer son jugement. Et cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne ou nous laisse livrer à nous-mêmes. Jésus lui-même n'a-t-il pas été condamné par des pécheurs ? Si on se met à la place des disciples qui ont vu Jésus condamné et crucifié, la crucifixion, c'est la victoire du mal. C'est la fin de tout. C'est un espoir formidable déçu. Et il faudra attendre le troisième jour pour commencer à comprendre que les apparences sont trompeuses. Jésus avait pourtant annoncé sa mort et sa résurrection. Et Pierre lui avait répondu, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Et vous vous rappelez, la réponse de Jésus, c'est « Arrière de moi, Satan. » Je ne sais pas vous, Pierre, moi c'est un personnage dans lequel je me reconnais beaucoup. Hein. des réactions spontanées comme ça. Beaucoup de paroles de Pierre me viennent assez spontanément à l'esprit aussi. Pierre était incapable, même avec la révélation de Jésus-Christ, d'imaginer que le chemin de Dieu, ça pouvait être celui-là. Et c'est pourtant ce jugement de Christ qui nous donne la vie aujourd'hui. Ce n'est pas une prise de position politique, mais je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas tout le temps échapper à l'actualité. Quand le 11 septembre 2001, deux avions s'abattent sur le World Trade Center et abattent deux tours, comment ne pas s'interroger, non pas pour les personnes qui péri ce jour-là, qui ne sont pas plus pécheresses que d'autres, même pas forcément pour les États-Unis, pour le pays lui-même, mais ce qui a été abattu, c'est vraiment le symbole de la puissance financière. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que ce système, il est juste, il est voulu par Dieu? Ou est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'il est de plus en plus entre les mains de quelques accapareurs? Je ne sais pas, regardez les statistiques, il y a de plus en plus de richesses concentrées en de moins en moins de mains. Ça m'interroge aussi, est-ce que Dieu utilise Al-Qaïda? Est-ce que, vous savez, Al-Qaïda, à mon avis, c'est pas pire que les Babyloniens de l'époque. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais quand on traverse tous ces temps, quand on voit toute cette violence, ces gens qui tuent aveuglément, on ne peut pas oublier non plus qu'on n'est pas irréprochable, nous, le monde occidental. Dieu a voulu punir le péché de Manassé, mais qui nous dit que Dieu n'est pas aussi en train de punir d'autres péchés? Quand Habacuc dit que la loi n'a plus de force, quand on voit certaines lois qui ont été votées dans notre pays, alors qu'est-ce que je retiendrai d'autre de l'exemple d'Habacuc? Mais qu'Habacuc, il n'est pas devenu insensible au mal. Comme toutes les choses qui se répètent, on finit par s'habituer. Hein, on est fait comme ça. Ça devient banal. On a aussi quelquefois l'impression qu'on ne peut rien faire. Pourtant, il y a une chose qu'on peut tous faire. C'est prier. Prier pour nos dirigeants. Dire... Je me suis vraiment interrogé dans la loi pour le mariage pour tous si je faisais l'effort d'aller à Paris ou pas. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison. Enfin bon. J'ai pas voulu cette loi. J'ai pas voulu. Mais on peut quand même prier pour nos dirigeants, qu'on ait voté pour eux ou pas. Pour qu'au moins, ils n'aillent pas plus loin. Quitte. Je ne sais pas si on peut espérer qu'ils reviennent en arrière. Hein, les futurs candidats commencent déjà à nous dire que ce ne sera pas possible de revenir en arrière. Mais qu'au moins... On ne continue pas à aller plus loin dans ce sens. On peut prier pour cela. Et quand je pense à ça, pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à... Enfin, je m'oblige à prier pour ça, ce n'est pas quelque chose qui me vient spontanément. Je me dis, mais ça m'interroge sur moi-même. Est-ce qu'au fond, je crois que ce monde peut changer? Est-ce qu'on croit qu'il peut encore se tourner vers Dieu? Alors, on sait vers quelle destination on va. Donc on se dit, c'est bien que le monde va parvenir en obéissance à Dieu, et ça nous décourage. Mais Habacuc, lui, il s'attendait encore à Dieu. Même en sachant, même avec les révélations, en sachant où il allait, il s'est dit, je guetterai, j'attendrai la réponse de Dieu. Il ne s'est jamais résigné au mal et à l'injustice. Alors, par nos prières, on ne va pas faire que le monde change complètement. Mais on peut quand même intervenir. On peut quand même s'attendre à Dieu. Et puis, je retiens d'Habacuc qu'il a osé parler à Dieu, un peu comme Job, un peu comme Jérémie. Et lorsque le temps paraît long, eh bien on peut le dire à Dieu. Pas sous la forme de révolte, mais en lui disant par exemple, montre-moi dans ta parole comment tu agis, que dans mes lectures j'ai des réponses, des choses comme ça. Et puis, Habacuc savait que Dieu n'était pas absent. On ne parle pas à un absent. On ne questionne pas quand on se dit « il n'y a personne ». Habacuc savait que Dieu n'est pas absent, qu'il ne tarde pas. Et suite à la présidence de Guy, eh bien, je vais changer mon verset de conclusion. Je vais vous relire quelques versets de Romains 5. Nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. »